Chaque mois, le Graal, groupement des radios associatives libres, vous propose une émission d'une heure. La table ronde du Graal s'intéresse à un sujet de société ayant un impact en Limousin et Périgord. Sur votre radio, la table ronde du Graal, Lucie Loconi.
Bonjour. Alors que le grand débat n'en finit pas d'occuper une place prépondérante dans la société, le Graal a choisi de prendre du recul et de zoomer sur celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, tendent une main franche aux plus démunis. Et c'est le cas de plusieurs associations en Limousin et Périgord. Et comment mieux illustrer cette émission qu'en l'enregistrant directement dans un lieu de vie devenu indispensable. Et ce lieu, c'est le restaurant social La Bonne Assiette à Limoges. Philippe Rougerie, vous êtes membre du collectif 87 à l'origine de ce restaurant. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors tout d'abord, merci de nous accueillir dans vos locaux.
Merci aussi de votre visite qui permet aussi de présenter notre restaurant et puis son action.
C'est normal, et à ce moment-là où on entre en enregistrer, il est 15h. Donc là, pour le moment, c'est assez calme, mais il y a une heure, j'imagine que ça l'était beaucoup moins.
Tout à fait. Nous sommes... Donc les repas sont servis pour le repas de midi à partir de 11h15. Jusqu'à 13h, et donc là, effectivement, c'est la pause entre les deux services avant de reprendre le service du soir.
Combien de couverts vous réalisez par jour ?
Alors, on va parler en nombre de repas. Sur le repas de midi, qui est à peu près équivalent aussi pour le soir, entre 140 et 160 repas sont servis quotidiennement.
Vous avez combien de salariés pour faire justement ces repas ?
Alors sur les deux sites, parce que nous allons travailler sur deux sites, mais sur le site ici, nous sommes à 5 salariés.
Comment est-ce que vous faites pour vous faire pour avoir la fourniture nécessaire pour faire ces repas?
La plupart des fournitures que nous utilisons sont fournies par la BAC alimentaire à hauteur d'à peu près 70%. Le reste est payé grâce aux subventions que l'on touche, que ce soit du conseil départemental ou que ce soit de la ville de Limoges. Et le fonctionnement, donc 70% par la banque alimentaire, et le reste est payé sur fonds propres.
Donc tout à l'heure, je vous présentais comme membre du collectif 87.
Oui, c'est... pour moi, très récent, ça fait juste 2-3 ans que je suis en tant que bénévole, donc servant les repas, et aussi en tant que effectivement administrateur de cette association.
Et c'est ce collectif qui est à l'origine du restaurant.
Tout
ça fait combien de temps qu'il existe, ce restaurant?
Le restaurant a ouvert en 1998 à l'initiative du collectif 87, qui est un regroupement de plusieurs associations. Et depuis quelques années, on est passé sous le nom de La Bonne Assiette. En fait, l'association La Bonne Assiette, qui est beaucoup plus connue qu'effectivement peut-être Collectif 87.
On a parlé des repas, beaucoup de repas. Combien de personnes, qui sont le public qui viennent manger ici?
Le public est très varié. On a toutes les personnes qui sont en souffrance, que ce soit des personnes... des SDF qui sont originaires de la région, que ce soit des personnes qui ont des difficultés de revenus, qui ont de très faibles ressources, que ce soit des personnes qui soient... on a aussi, alors de notre côté, je les vois un peu aussi, des personnes qui sont sous tutelle, qui viennent des milieux psy, qui ont des revenus très faibles, qui touchent la hache, qui ont des difficultés pour se nourrir. Et d'autre part aussi, une population qui grossit petit à petit, de migrants qui sont en grande difficulté pour manger et qu'il faut absolument nourrir, hein, parce que c'est... En termes, c'est ça, c'est nourrir, on ne peut pas dire...
C'est nourrir, mais de façon qualitative. Il y a un vrai service derrière.
Tout à fait, oui, il ne s'agit pas de dire... Oui, le service, c'est un repas qui prépare... Enfin, un repas avec... Alors, les contraintes, mais j'en parlerai après, mais avec donc une entrée, un plat, une soupe, éventuellement deux entrées si c'est possible... Sur le niveau du plat de résistance, on a aussi parfois deux plats proposés. On a une population qui peut être de confession musulmane, et donc évidemment, on va pas leur proposer du porc à manger.
Évidemment
qu'il est normal de s'adapter aux besoins de la personne et ne pas être stigmatisant en disant c'est ça ou rien. Donc il y a obligatoirement. Je dirais pas repas de substitution parce que j'aime pas ce terme-là, mais que tout le monde puisse manger et que cela convienne aux origines de la personne.
Mais comment cela fonctionne pour qu'elles puissent prendre ces personnes-là le repas ici ?
Alors elles nous sont envoyées. Si je prends les personnes migrantes, elles sont envoyées par le conseil départemental qui prend en charge le repas. Donc elles n'ont pas à fournir. Le conseil départemental leur donne une attestation. Ils se présentent ici avec leur attestation et nous leur finissons le repas.
Il y a des carnets de tickets également.
Il y a aussi les carnets de tickets. Ce qui est intéressant pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas de temps à donner pour être bénévole, ces carnets de repas sont achetés à la banque, enfin ici, à la bonne assiette, et servent, on les distribue pour que chaque personne puisse en bénéficier. Quand quelqu'un, on peut les distribuer dans la rue à des personnes, ou on en a ici d'avance, par exemple, beaucoup de bénévoles, on en a dans leur poche un carnet, et quand un migrant se présente ou que quelqu'un a besoin de manger et qu'il n'a pas d'attestation, je pense au premier jour qu'il n'a pas d'attestation, ou qu'il n'a pas, parce qu'on fait pour les personnes qui payent, c'est 1,50€, qu'il n'a pas les 1,50€, on ne va pas lui dire, désolé, vous ne mangez pas. Non, il y aura toujours un bénévole pour donner un ticket pour qu'ils puissent manger.
Et à certains moments, les personnes qui viennent manger peuvent elles-mêmes devenir bénévoles.
Tout à fait. Il y a des personnes on a beaucoup de personnes qui ont bénéficié des services de la bonne assiette et qui continuent à être et bénéficiaires et bénévoles. Et je trouve très important, effectivement, qu'il y ait cette notion de passage. J'ai été dans le besoin. Je suis un peu moins dans le besoin, ou même je suis encore dans le besoin et je viens aider des personnes qui m'ont aidé. Parce que c'est ça, c'est la transmission, c'est un peu la chaîne du bénévolat, c'est transmettre quelque chose, c'est participer par son action à être soi-même bénévole et à être aussi indirectement, non pas juste receveur, mais aussi acteur de bénévolat.
Quels sont les retours que vous en avez ensuite ? Est-ce que c'est un espace réellement convivial pour eux ?
On essaye au maximum que ce soit convivial avec les difficultés que cela représente. Comme je vous disais, vous voyez la salle, il y a à peu près 60 places. Quand il y a 140 à 160 personnes qui viennent, ça veut dire que ça bouscule un peu. On ne dit pas aux gens jamais on va dire à quelqu'un faut que tu te lèves et pour laisser ta place. Mais ça a aussi des contraintes aussi, même nous en tant que bénévoles, pour faire le service, parce qu'on n'est pas les professionnels qui travaillent ici sont juste en cuisine. Tout le service en salle est assuré par les bénévoles. Donc il est important aussi pour nous de. C'est parfois dur, on n'est pas. C'est pas notre. Pour beaucoup, ce n'est pas notre métier. Donc c'est là où des fois c'est difficile. Je trouve que des fois on manque un peu de lien parce qu'on n'a pas le temps de discuter beaucoup avec les personnes. Alors bon, ça, c'est les contraintes aussi du fait qu'il y ait aussi beaucoup de monde qui vienne.
Peut-être que ça sera rendu possible avec un nouveau service ouvert rue de Babylone.
Voilà, donc depuis peu, ça date du 1er février. Donc pour vous dire si c'est récent, c'est pas encore tout à fait finalisé. Donc effectivement, on voit que les locaux sont un peu petits. On compte garder ce local qui est historique, qui est en centre-ville, qui est bien. Mais pour tout un tas de raisons, que ce soit du domaine du pratique, que ce soit du domaine du symbolique, voilà. Mais aussi, on a des difficultés aussi en termes d'agencement, pour la cuisine de taille. Donc effectivement, on a contractualisé avec l'AFPA pour avoir bénéficié de locaux plus grands et avoir un autre type de service. Et beaucoup de migrants étant hébergés directement sur l'AFPA, nous avons un partenariat idéal avec eux. En plus, l'AFPA qui sont des gens adorables pour ma part, et je trouve que ça sera la proximité fera qu'effectivement ça sera plus facile et pour tout le monde d'en bénéficier.
Et les salariés qui sont présents sur ce site à côté de la mairie partiront également?
On aura quand même besoin, on va être soit sur la liaison froide, on va être vraisemblablement sur la liaison froide, donc il faut quand même qu'on l'on puisse remettre en température, préparer les plats, les servir. Donc le personnel, on est obligé d'embaucher un peu plus de personnes justement pour pouvoir avoir deux pôles. Le personnel continuera à travailler ici obligatoirement.
Et les associations qui œuvrent pour que tout le monde puisse manger à leur faim, il en existe également pour les animaux. C'est le cas de Croquettes Solidaires que vous devez connaître. Didier Cerveau est le président de cette association. Reportage.
Alors l'association elle s'appelle Croquettes Solidaires et compagnie. On s'occupe que des animaux des sans-abri et aussi des gens qui ont des animaux qui sont dans le besoin. C'est-à-dire qu'au niveau salaire, ils sont dans la misère. Cet après-midi, par exemple, j'ai apporté des croquettes à une personne qui est handicapée et qui n'avait pas beaucoup de moyens. Et dans le confort des animaux, c'est couverture, laisse, collier, gamelle, nourriture et frais vétérinaires.
Et ça existait pas avant, quoi, comme...
Non, nous on l'a créé au mois de mai dernière, le grand démarrage a été au mois de septembre et aujourd'hui on vient ici avec l'association Les Autres le vendredi soir, tous les vendredis. Nous sommes un lundi sur deux au Resto du Cœur de 9h à 11h du matin et à l'association La Bonne Assiette, on y est donc l'autre lundi de 11h à midi et demi.
Et alors, qu'est-ce que vous donnez comme produit essentiellement?
Alors, au niveau des produits, c'est super varié, puisqu'en été, on fait de la récolte dans les magasins. On a été dans un magasin au mois de novembre où on a récupéré l'équivalent de 14 chariots de nourriture. Ça marche très très bien au niveau des gens, donne beaucoup pour les animaux. Et on récupère croquettes, pâtés, enfin vraiment du tout, de la litière, tous ces produits-là. Et nous, on a eu un stock phénoménal au mois d'octobre. Et là, on va rattaquer un autre magasin puisque... on est vide.
Et en plus, il y a une pharmacie qui vous donne des médicaments.
Oui, il y a une pharmacie à Cornillac qui nous permet de nous donner des produits au niveau des puces, des produits pour les tiques et puis pour les vers et tout le reste. Tous les produits qui sont très très chers au niveau vétérinaire. Et on a aussi des vétérinaires sur Limoges, Panazol aussi, qui travaillent à moitié prix pour nous.
C'était Didier Cerveau, le président de l'association Croquettes Solidaires. On va faire une première pause musicale. On écoute Bruce Springsteen.
Six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Woo-hoo!
la table ronde du Graal, Lucie Loconi.
Retour au cœur de la deuxième partie de l'émission mensuelle La Table Ronde du Graal, ce mois-ci consacrée à la solidarité et enregistrée dans les locaux du restaurant social La Bonne Assiette. Et nous accueillons à présent Magali Ménérol. Vous êtes directrice d'Estia 87. Bonjour.
Bonjour.
Estia comprend un CADA et un CHRS abri. Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence ?
Alors, il y a même deux CHRS, en fait, depuis le 1er janvier, parce qu'on a fusionné avec l'association Marianne. Donc, effectivement, on gère un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, où on accueille des personnes isolées, des familles qui sont en demande d'asile et qui sont orientées par l'OFI, l'Office français d'immigration d'intégration. Donc, pour eux, on assure l'hébergement et l'accompagnement dans le cadre de la demande d'asile. Et en CHRS, donc on a en tout, on a deux CHRS, donc on a 34 places dédiées à l'hébergement d'urgence et 30 places dédiées à l'hébergement d'insertion. Donc un CHRS, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Les personnes sont orientées par le SIAO, en fait c'est une gestion collective des places au niveau du département. Et nous accueillons alors aussi bien des personnes isolées que des familles qui sont dans un parcours de vie avec des difficultés souvent multiples, avec des problèmes, donc pas de logement en principe, hein, des problèmes de santé, des problèmes d'emploi. Et donc nous les accompagnons dans ces difficultés.
Voilà. Et puis dans le CHRS Abri, il y a également un accueil de nuit.
Oui, j'ai pas tout précisé, mais effectivement, depuis le mois de janvier 2018, nous avons ouvert à la demande de l'État, qui a diffusé un appel à projet, un accueil de nuit de 15 places. Alors uniquement pour des personnes isolées qui sont orientées par le 115, parce qu'il y avait un constat en fait sur le département que les personnes isolées n'accédaient pas ou très peu à de l'hébergement. Donc nous on assure une prestation. Alors on héberge, on propose un repas sur place fourni aussi par la banque alimentaire, la possibilité de rencontrer un travailleur social qui pourra ensuite orienter vers les services compétents, une buanderie, un point internet et un vestiaire si besoin. Donc l'accueil se fait de 18h à 9h.
L'hébergement, il est où exactement ?
Il est au 45 avenue Émile Labussière, dans un bâtiment collectif, donc où on a 15 chambres. Voilà.
15 chambres pour combien d'appels en général
Alors, les
combien
appels
sollicite le 115 justement ?
Le 115 est géré par une autre association qui porte le SIAO, qui est la RSL. Donc nous ne recevons pas les appels en direct. En fait, donc je sais qu'il y a beaucoup d'appels au 115, mais j'ai pas les chiffres en tête. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, tous les jours, on propose une à deux places du lundi au vendredi à des personnes isolées. Alors qu'avant, elles avaient quasiment tout le temps une réponse négative du 115.
Et comment s'articulent les logements justement ? Est-ce que c'est des chambres en fait où ils disposent d'un lit, une salle de bain ? Comment ça s'articule ?
Alors sur l'accueil de nuit spécifiquement, ce sont des chambres seules ou en cohabitation, donc non mixte, avec parfois un cabinet de toilette dans la chambre, parfois sur le palier, une douche. Et il y a une salle collective pour les repas. Voilà.
Comment est géré l'accueil de ces personnes ?
Alors, les personnes sont orientées par le 115. Elles arrivent pour le premier accueil, on a un temps dédié. Elles arrivent avant l'ouverture, à partir de 17h ou 17h30. Elles sont accueillies justement par un salarié qui va prendre le temps de demander un petit peu. Alors, s'ils veulent ne rien nous confier, ils nous confient rien. Mais on prend le temps de voir un petit peu qui ils sont, où ils en sont, quels sont leurs besoins. Ensuite, il y a un accompagnement qui se fait à l'installation dans la chambre. Et puis voilà, après tous les soirs, l'accueil il se fait à partir de 18h autour d'un café, d'une boisson chaude, surtout en cette saison. Et ensuite, il y a un repas qui est pris à partir de 19h.
Combien est-ce qu'il y a de salariés au total gérant les repas et l'hébergement ?
Sur l'accueil de nuit, très peu. Je crois que c'est un peu plus de deux équivalents temps plein, mais en fait ce service est, on mutualise du personnel avec le CHRS. Donc en fait les veilleurs de nuit qui étaient présents pour le CHRS, on a étendu leur travail sur l'accueil de nuit également. En tout, l'association Estia en emploie 28 salariés.
J'imagine que le public de La Bonne Assiette rejoint également le public sur l'accueil de nuit souvent.
Oui, je pense que. Alors, le soir, on a un repas, mais le midi, en effet, nous, on ferme à 9h le matin. Donc, les personnes repartent. Parfois, vont vers l'accueil de jour de la Croix-Rouge. Mais pas mal, effectivement, utilisent le service de restauration du midi, oui.
Combien de temps elles peuvent rester, les personnes, sur l'accueil de nuit ? Est-ce qu'il y a un turnover ?
Alors, on a mis en place un règlement pour que, justement, il puisse y avoir un turnover et qu'on puisse tous les jours proposer des places. Donc, il y a un contrat d'hébergement qui propose 14 nuits. Et ensuite, la personne peut resolliciter. Si personne ne demande la place, il arrive parfois qu'ils re-rentrent dans les jours qui suivent. Sinon, il y a un mois de carence qui est observé. En fait, on se rend compte... Donc, on a accueilli l'année dernière 252 personnes, précisément. Et on se rend compte qu'on a fait 4-5 quelques séjours. Donc, il y a des personnes qui font jusqu'à 4 ou 5 séjours à l'établissement.
Avec peut-être une priorité sur les enfants ?
Alors, sur l'accueil de nuit... que des personnes isolées ou des couples sans enfants. Par contre, sur le centre d'hébergement et réinsertion sociale, effectivement, puisqu'on travaille avec le SIAO, on a mis en place en fait des critères de vulnérabilité pour essayer d'accueillir en priorité les personnes, effectivement, des femmes enceintes, des personnes avec des enfants en bas âge qui ont des problèmes de santé. Donc effectivement, on a pas mal d'enfants sur les structures. Là, je regarde par exemple, sur 2017, on a accueilli 132 personnes sur les CHRS, il y avait 54 enfants.
Ce sont des personnes essentiellement de Limoges ou elles peuvent appeler d'autres villes et être orientées vers ce CHRS ?
Non, pour le CHRS, en effet, alors sauf cas très particuliers, par exemple, de femmes victimes de violences conjugales qui peuvent être accueillies d'autres départements, les personnes font la demande, en tout cas en Haute-Vienne, on accueille des personnes. Voilà.
Et sur ces personnes, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent après avoir dormi déjà plusieurs jours dans la rue ?
Oui, en fait, à l'accueil de nuit, on a beaucoup de gens qui sont dans des solutions très précaires, donc qui vont venir à l'accueil de nuit un certain temps, qui étaient hébergés par exemple auparavant chez des compatriotes, mais justement ça permet à l'accueillant de souffler. On a des personnes qui sont aussi à la rue, dans des squats, enfin voilà, dans des situations compliquées et qui vont enchaîner les solutions de fortune un petit peu.
Et quelles sont les mesures qui s'ouvrent lorsqu'il y a le plan grand froid qui est appelé par le préfet de la Haute-Vienne ?
Oui, alors le plan grand froid, nous on a un comité de veille sociale qui est réuni à l'initiative de l'État, donc qui réunit aussi bien les associations comme La Bonne Assiette, les Restos du Cœur, etc. et les associations comme nous qui gérons des établissements. Et donc il y a différents niveaux dans ce plan grand froid, et quand on est en niveau d'alerte, effectivement il y a des mesures renforcées, donc il y a l'ouverture d'un gymnase. Nous, on monte en sureffectif, on a 15 places, mais on peut monter jusqu'à 17. D'ailleurs, on le fait assez souvent. Et puis, il y a aussi un accueil de jour qui s'ouvre le week-end par la Croix-Rouge, qui n'est pas ouvert en temps normal, et il y a un renforcement des maraudes. Donc, c'est un petit peu toute la chaîne là, de tous les acteurs qui se renforcent.
Je vous propose d'écouter le reportage d'Anne-Laure Lejolife de Radio Pays de Guéret.
Comment se passe l'accueil d'urgence en Creuse ? Réponse avec Christophe Marguerite, directeur de l'association Le Comité d'accueil creusois, qui intervient dans différents champs de lutte contre l'exclusion et notamment gère l'accompagnement des personnes qui se retrouvent sans abri.
Alors, nous, notre association se situe à Guéret. Après, nous avons en coordination le numéro 115, donc numéro d'urgence pour les sans-abri. Et là, nous appuyons sur différents partenaires qui gèrent des places d'hébergement d'urgence sur le département. Donc, situé à La Souterraine, Feltin, Auzance, Bourganeuf et Boussac. Et nous, bien sûr, sur Guéret. Nous sommes une association, mais qui est remplie des missions de service public, hein, puisque, donc, effectivement, nous travaillons en collaboration étroite avec l'État, la préfecture, notamment en période de grand froid, qui nous délivre nos agréments pour notre intervention et qui nous alerte avec les différents niveaux de température et la vigilance qui s'accompagne pour intervenir au plus vite et de la manière la plus adaptée auprès des personnes qui seraient à la rue.
Ça peut arriver à n'importe qui, il faut le savoir. Pas n'importe qui. Des gens qui sont aisés comme des gens qui ne sont pas aisés. Mais moi, je me rends compte parce que j'ai eu un frère qui avait une très bonne situation sur Paris, qui se retrouve à la rue. Il travaille très bien, il dormait dans les rames de métro. Moi, je l'ai su qu'après sa mort. Il n'a jamais voulu le dire. Quand il venait me voir à Bourganeuf, il était toujours bien habillé, il donnait de l'argent à ma soeur, à moi, à mes petits amis garçons.
Alors sur le département aujourd'hui, nous avons en gestion directe 7 places sur l'abri de nuit, ce qu'on appelle les abris de nuit de Guéret. Et après, les autres lieux d'hébergement dont j'ai parlé représentent un potentiel de 10 places d'accueil. Donc 17 places en hébergement de nuit, c'est-à-dire en structure de mise à l'abri sur du court terme. Et ensuite, nous travaillons avec un ensemble de partenaires aussi qui peuvent proposer de l'hébergement, mais plus dans la durée, selon les besoins, les demandes, les projets des personnes. Donc plus ce qu'on appelle, nous, de l'hébergement d'insertion. Nous disposons également d'un vestiaire. Et puis la personne peut aussi rencontrer une équipe sociale et qui est à son écoute.
Et ça fait combien de temps que tu vis comme ça ?
Ça va faire maintenant pas loin de un an et demi.
Et il y a un accueil de jour, donc, récemment.
Voilà, tout récent. C'est bien pratique, les gens sont très gentils, ils sont accueillants, ils sont là pour vous donner un coup de main.
Et ils vous donnent un coup de main au niveau du administratif ?
Voilà, administratif, et puis bon, vous avez un abri, vous pouvez vous doucher, vous pouvez manger, vous faire chauffer quelque chose. Ça, c'est très bien, ce sont des gens très bien, ils font leur boulot, après ils voient du monde régulièrement. Mais vous ne pouvez pas rester. Donc vous êtes un touriste, vous venez, après vous partez, vous êtes laissé en notre abri. Donc on peut vous envoyer sur Rosance, on peut vous envoyer sur Busson, on peut vous envoyer sur n'importe où. Mais bon.
En moyenne, hein, sur les sollicitations en hébergement, on a à peu près 500 sollicitations par an, régulièrement. Nous, après, ce que l'on constate, alors je vous dis, ce centre est ouvert depuis un an, mais ce que l'on constate, c'est qu'il y a une demande de prise en charge de plus en plus importante pour des familles, ce qui n'était pas le cas avant, et pour une population jeune, un rajeunissement de la population. Ça, c'est vraiment les deux indicateurs qui aujourd'hui nous poussent aussi à repenser nos modes d'intervention et nos modes d'accueil. C'est vraiment sur ces, j'aime pas employer ce mot, mais sur ces deux catégories de personnes qu'on a vu une évolution des besoins.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un signalement pour une personne qui refusait d'aller
tout à fait. J'ai envie de dire, à partir du moment où l'état de santé de la personne dans l'immédiat ne semble pas en danger, on ne peut pas contraindre une personne. Pour autant, nous, l'enjeu, c'est de dire à la personne qu'on comprend qu'aujourd'hui, elle ne souhaite pas forcément être hébergée, mais qu'on reste à son écoute et qu'on repassera.
Ça va durer toute l'année ou c'est seulement pendant la
période ? Alors, les maraudes sociales, notamment, hein, puisqu'on s'inspire des maraudes du SAMU social, hein, ont vocation à être mises en place dans un premier temps sur la période hivernale, donc du coup jusqu'au 31 mars de chaque année. Donc, à la fin de l'hiver, effectivement, nous ferons un bilan qui nous permettra de voir s'il est judicieux ou pas, au-delà de cette période hivernale, de pouvoir poursuivre.
Et donc là, tu espères avoir un logement dans combien de temps ?
Là, non, mais là, ils m'ont trouvé un appartement social.
D'accord, donc pour l'instant, tu dors plus à la rue, là, depuis le 16 novembre. C'est bien déjà.
Ah non, j'aime pas mon lit.
Pardon ?
J'aime pas le lit.
T'aimes pas le lit ?
Non.
Tu préfères dormir sur du dur ?
Ah oui, ouais. Je dormais dans du gravier.
Si vous êtes témoin d'une personne en détresse sur le département de la Creuse, vous pouvez composer le 115. C'est gratuit et ouvert 24 heures sur 24. Ça vous mettra directement en relation avec le comité d'accueil creusois. Ce reportage était illustré par les témoignages de Mustapha et Sébastien au micro de Gina, réalisé à l'ouverture du centre de jour en 2017.
Anne-Laure Le Joliffe de Radio Pays de Guéret, Magali Ménérol, vous qui êtes directrice générale d'Estia 87, à l'écoute de ce reportage, on s'aperçoit quand même que la situation, elle est partout la même, que ce soit en Creuse et en Haute-Vienne. Quelle est votre réaction à l'écoute de ces témoignages de ces personnes qui des fois préfèrent dormir dehors sur le gravier plutôt que dans des centres d'hébergement ?
Une réaction déjà humaine où effectivement, même si je côtoie tout ça au quotidien, c'est jamais simple de rentrer à la maison avec. Donc effectivement, ça nous touche. Après, pour les personnes qui refusent, j'ai envie de dire que c'est un peu la difficulté de nos métiers en travail social, où on est toujours là pour être à côté des personnes et les accompagner, mais qu'on n'est pas là pour, c'est ce que disait Monsieur Marguerite, hein, on ne peut pas contraindre les gens. Maintenant, ça nous oblige, comme lui, hein, à repenser nos modes d'accueil. Par exemple, on sait aujourd'hui que sur la ville de Limoges, il n'y a plus d'accueil pour les personnes qui ont des animaux. Donc effectivement, on réfléchit aussi à ça. C'est un des motifs de refus, les gens ne veulent pas se séparer de leurs animaux pour la nuit.
Merci à vous d'être venus sur la table ronde du Graal et vous devez à présent nous quitter, Magali Ménérol.
Oui, voilà. Je vous remercie en tout cas pour cette invitation.
Et on va se retrouver juste après la pause musicale.
Jimmy, won't you please come home? Where the grass is green and the buffaloes roam.
La table ronde du Graal, Lucie Loconi.
Mamadou Lieu-de-Baldé, vous êtes bénéficiaire de la bonne assiette et en même temps, vous y avez travaillé, c'est ça?
Oui, j'ai été première fois bénévole. Et j'ai été bénévole pour la première fois. À un temps, j'étais salarié. Mais pour l'instant aussi, je suis bénévole. Oui, le temps que j'étais bénévole, ça fait 3 mois. J'ai été bénévole. Après 4 mois, j'étais employé. À l'instant aussi, je suis bénévole.
Et qu'est-ce que vous faisiez exactement?
Bon, en fait, moi, je connais la bonne assiette parce que je suis hébergé à Seaouaf, par rue du Babylon. Mais on nous orientait ici de venir manger ici. Bon, je voyais, il y a plein de gens qui travaillent ici. Mais je vois, ils ont besoin de gens, je vois, ils sont coincés. Mais après, je suis venu vers eux, je demandais, est-ce que, parce que moi, je suis hébergé à Seaouafpa, je ne fais rien, je viens ici manger, je retourne, je n'ai aucune activité. Je lui demandais, est-ce que je peux venir vous aider, parce que moi, je ne fais rien. J'ai l'habitude de travailler au pays, je n'ai pas envie de rester dormir. Bon, et après, je demandais à Lionel, il dit oui. Ils ont accepté, je suis venu les aider, j'ai aimé la manière de travailler, je les aide. J'ai resté pendant 3 mois, je les aide. Et après, un jour, Lionel m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, je vais tenter de voir si... il me demande d'abord si tu as une procédure normale. J'ai dit oui. Bon, il dit ok. Il dit, est-ce que tu as une autorisation de travail? J'ai dit, mon assistant social m'avait dit...
Parce qu'il voulait vous embaucher, en fait.
Oui, mon assistant social m'avait dit, si tu es ici en France, c'est ton premier pays de demande d'asile, mais si tu as une procédure normale, si tu fais 9 mois, tu n'as pas sorti dans le procédure, tu n'as pas eu le papier, tu attends, tu peux demander à la préfecture une autorisation de travail. Mais après, je dis ça à Lionel, il a appelé mon assistant social.
Lionel Raguet, c'est le directeur de la Bonne Assiette.
De la Bonne Assiette, exactement. Bon, il a appelé à mon assistant social que Mariette. Bon, Mariette l'a donné mon récépissé. Après, je ne sais pas comment il a fait, il a demandé, je crois, à la préfecture. J'ai donné une autorisation, il m'a fait un contrat de un mois. Et après un mois, il m'a renouvelé 2 mois. Et après ça, j'étais dans une procédure, on m'a appelé à Paris pour l'entretien à l'OFRA. Et après l'entretien, malheureusement, j'ai reçu un rejet de l'OFRA. Mais j'attends pour le CNDA le recours. Et après, lorsque le contrat est fini, Lionel voulait renouveler un autre contrat pour moi parce qu'il voit le travail, je fais bien, j'aime le boulot. Mais après, il a demandé à la directe, mais ils n'ont pas accepté. Ils ont dit que parce que je suis à la CNDA et je n'ai pas le droit de continuer le travail, il faut que j'attende. Mais il a tout fait, mais impossible. Tu sais, la loi est...
Bon, donc, en gros, de ce qu'on comprend, c'est que les procédures administratives ont fait que ça a bloqué un contrat salarié à la Bonne Assiette.
Oui, exactement.
Et vous, vous travaillez dans quoi? Quel secteur d'activité? Vous faisiez la cuisine, le service?
J'étais à la salle. C'est moi qui installais les couverts, tout le travail du salle. Je servais aussi avec les bénévoles. Quand les bénévoles viennent, presque deux fois, ils trouvent que j'ai presque tout fait. D'autres, ils sont contents. Ils disent que ben, ouais, tu bosses bien. Je suis dynamique, je bosse parce que là, je restais à l'AFPA, je ne travaille pas. Maintenant, je vois, j'ai la chance d'être...
Ça a permis de donner une dynamique à vos journées.
Voilà, je travaille et aussi je reçois un salaire. Mais ça m'aide. Je mets ma famille et mes enfants, ma femme, ma famille au pays. Je les envoie un peu, mais je reste avec d'autres argent. J'étais très content avec, je remercie Lionel parce que c'est la confiance. Je l'avais dit le jour qu'il m'a dit qu'il a obtenu. Je lui ai dit, oui, tu as apporté confiance à moi, ben, moi aussi je vais travailler pour te montrer que j'ai envie de travailler.
Ouais. Est-ce que tout à l'heure on disait que les repas c'était des moments conviviaux, des moments d'amitié? Vous le ressentez ça également?
Oui, exactement. Ouais. Il y avait même, parce que moi aussi je suis demandeur d'asile, je suis hébergé à l'AFPA. Y a même des amis que je suis hébergé avec qui viennent manger, mais je les aide, je leur donne bien le manger, je leur dis ben c'est comme ça. D'autres, quand ils ne comprennent pas, ils viennent vers moi, ils me demandent. Voilà, c'était comme ça le travail. Quand même, j'ai aimé le travail depuis. Au pays, je faisais le travail du restaurant, mais ce n'était pas trop. Mais là, depuis que j'ai commencé, j'ai aimé le travail.
Et juste à côté de vous, il y a Tazai Abdelchokor et vous, vous êtes bénéficiaire. Vous ne travaillez pas à la Bonne Assiette, mais vous êtes bénéficiaire, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Vous venez manger ici depuis combien de temps?
Ça fait, je pense, 8 mois.
8 mois. Et oui. Quel a été votre parcours, en fait, pour venir manger ici?
Parce que je suis hébergé de... c'est au AFPA et maintenant je suis dans réfugié en France et je fais rien, je ne travaille pas et c'est pour ça que je viens à la Bonne Assiette pour manger.
Ouais. Vous êtes réfugié de quel pays exactement?
Où je viens?
Oui.
Afghanistan.
Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours pour venir jusqu'ici alors?
La situation dans mon pays, c'était des situations en sécurité, que je ne peux pas vivre dans mon pays. Il y a des... vous connaissez bien, il y a des talibans, il y a des Daesh maintenant, qui n'acceptaient pas le gouvernement. Voilà. Et ils sont... ils ont tous les jours guerre, oui.
Oui, c'est la guerre
entre eux. Et j'étais aussi dans, je travaille dans un radio. Et pour nous, c'était difficile de dire la vérité, de dire que ce qu'il fait.
Vous étiez journaliste en Afghanistan?
J'étais, oui.
Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez un peu plus détendu maintenant que vous êtes arrivé ici?
Oui, ici, je me sens bien. Et je suis en sécurité.
Témoignage de Tajzai Abdelchokor, réfugié d'Afghanistan. 1857 colis distribués, 123 sorties, 700 soupes, ce sont les chiffres du SAMU social de Brive. En Corrèze, Guylaine, responsable du SAMU social de Brive, est chargée des maraudes. Elle était au micro de Philippe Dotteville de Bram FM mercredi soir. On l'écoute.
Bonsoir.
Voilà mes collègues.
Bonjour monsieur. Agnès.
Et vous, vous avez les mains pleines?
Voilà.
Vous êtes?
Guillaume.
Les invendus, le mercredi... On les récupère et ça nous permet de faire des petites puces. Par exemple, on a eu des œufs, ben ceux qui peuvent faire chauffer, cuire, ils sont contents d'avoir des œufs, des petits plats cuisinés, tout prêts à faire chauffer.
Et en une soirée de maraude, vous
Ah, faut
vous
compter, en ce moment, on est à entre 15 et 19. Des fois un petit peu moins, c'est très variable.
Voilà. Et il y a des femmes?
Oui, oui, il y a des femmes, malheureusement. Oh, on en connaît trois, oui. Trois qui viennent régulièrement, même deux autres qui viennent de temps en temps, et des jeunes, des très jeunes.
Oui.
Des très, très jeunes, oui, oui. Oui. Des petites jeunes, on a eu même des mineurs, oui, oui. On est là pour leur donner à manger, les aider, les écouter, les orienter, mais en aucun cas les juger ou autre, on ne peut pas se permettre. Ah, une maraude, c'est très variable. On peut rencontrer 8 personnes dans une maraude et ça va durer 2h30.
Parce qu'on parle?
Parce que les gens ont besoin de parler, ils ont des choses à dire. Alors, soit c'est... ils sont bien, ils se sentent bien, ils ont envie de discuter, ils parlent de tout et de rien. Et puis, quelquefois, c'est la détresse, ou surtout des femmes qui pleurent. Qui sont en grande détresse et qui pleurent et on se sent impuissant, alors on attend, on est patient, et puis une petite tape sur l'épaule, allez, ça va aller mieux, vous inquiétez pas, ça va aller mieux, on essaie toujours de retrouver un petit mot chaleureux, et puis c'est reparti, ensuite elle a besoin de discuter un peu mieux, elle sent son chagrin qui enfouit un petit peu, puis elle se sent mieux, alors elle reprend un petit café ou un chocolat et elle discute et ça va mieux, donc on passe tout le temps qu'il faut. Tout le temps, on n'est pas pressé. Dans une maraude, on n'est vraiment pas pressé.
Alors, tu laisses la...
Elle nous quitte.
Pour la caisse de
faire une maraude à Marseille. Oui, il est 5.
Oh, ça va, on n'est pas en retard. Oui. Je vais chercher ma blouse, ma veste.
Hey, t'as fait le...
Oui.
Vous faites les maraudes depuis longtemps?
Non, depuis le mois de novembre seulement. Et principalement en tant que conducteur.
Alors, vous voyez, on a eu un appel du 115, il y a une personne au Stavel qui nous attend.
Qui nous attendra, on ira après.
Toujours dans le sens,
hein.
Prêt à partir.
Partir en marche avant.
J'ai expliqué.
Ils arrivent.
Il veut une boisson chaude.
Je les ai appelés avant de me coucher, je leur ai dit... Laissez-moi un message, je vous rappelle et tout.
Vous avez tout s'arrangé. J'ai été opéré au mois de septembre l'année dernière. Je revois le chirurgien.
Alors, il y a les gens qui vivent un peu plus en retrait, des cas très particuliers. Je ne sais pas si vous avez entendu dire, mais en principe, les journaux, enfin les journaux locaux ici le connaissent bien. Patrick de Malmort, notre Patrick, entre guillemets, ça fait des années qu'il est là. C'est un monsieur qui a toujours vécu dehors, dans les bois, enfin toujours, je ne sais pas, au moins 25 ans, facile. Il a une place au Roc qui l'attend, une chambre, mais il ne veut pas. Pour lui, être enfermé, c'est insupportable.
Patrick, bonjour. Il y a une petite souris qui se promène là.
Oh
la coquine!
Il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs, elles sont bien là chez vous, hein, avec les miettes là qui se promènent.
Ouais.
Comment ça va, Patrick?
Ah, Patrick, j'ai toujours une attrapée. Un chat.
Il y a un chat qui a attrapé une souris? Ah. Eh bien oui. Hein? Il n'est pas là, Jean-Paul?
Non, il n'est pas là. Non.
Bon, Jean-Paul, on va aller vous faire le café? Café, soupe.
Il est parti faire un tour.
Il est parti faire un petit tour, sûrement.
Ah ouais. S'il n'est pas là, c'est qu'il est parti.
Ah ben, s'il n'est pas là, c'est qu'il est parti, oui. Allez, on revient, hein, on va vous chercher tout ça. Si les personnes arrivent, qu'elles se sentent en détresse et qu'il n'y a pas où dormir, malheureusement, le Roc, il n'y a jamais de place. Et c'est complet. Toujours complet.
On laisse les gens dans la rue. C'est pour ça que ça s'appelle un pays, la France, démocratique, avec des libertés, égalité et fraternité. Mais ça, c'était avant. Il y a des gens qui sont morts pour avoir tout ça à l'entrée de nos bâtiments, mais... C'est plus le cas aujourd'hui. On dit aux gens, c'est complet, vous restez dans la rue.
C'était la maraude du mercredi 6 février à Brive, avec l'équipe du SAMU formée par Guylaine, Agnès et Guillaume.
En notre soupe.
Avec plaisir.
Ouais. Merci Philippe Dauteville de Bram FM à Tulle, reportage à Brive-la-Gaillarde.
La table ronde du Graal, Lucie Loconi.
Et je vous propose de découvrir un personnage, c'est Jean-Pierre Orfèvre, d'abord bénévole à Emmaüs, puis président du collectif 87 de 1992 à 96. Il décide ensuite de créer l'association Les Autres, et l'année suivante, il ne tient plus en place. Il se lance dans les maraudes. Tous les vendredis soirs, c'est avec une indéfectible bonne humeur qu'il rend visite à ses amis de la rue, comme il préfère les appeler, et il ne les ménage pas. « Tiens, tu bois encore du coca ? Ah, ben voilà, c'est bon ça, le coca » dit-il comme il parlerait à ses copains. Je l'ai suivi un soir d'hiver et très vite, je découvre une sincérité hors du commun. Reportage.
Mais c'était passé, avec le bazar qu'ils font, là, tu comprends.
Ah, pardon.
Ouais, tranquille. T'es, regarde, elle est toujours de suivre, celle-là. Elle est trop mignonne. C'est le Batsou, hein.
On a commencé les maraudes en 1997. 92-97, là, j'ai été bénévole et président du collectif 87. Et après, vu qu'on a arrêté, donc moi je me suis lancé. Notre association qu'on avait créée ensemble aussi pour améliorer un peu la vie de tout le monde, on s'est lancé à faire la maraude. Nous, au bout d'un an, on ne savait pas quoi faire.
Vous aviez besoin d'être oui. Sur le terrain et aider.
Ah oui, oui, on va passer par là. Et donc, finalement, on a besoin. Ben, on savait aussi que les gens, le soir, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc, il fallait que s'occuper ces gens-là, parce qu'il y en a qui souffraient. On savait qu'il y en a qui étaient dehors et tout. Il y en avait moins que maintenant. Oh là là. Je dis simplement un exemple, juste pour dire. Je compte, en 10 ans, on a pratiquement doublé le nombre de personnes dans la rue. Non. À l'époque, on était... entre 15 et 18, maintenant on arrive à la semaine dernière, 37. Donc voilà. En 10 ans, on a pratiquement doublé. Voilà.
Donc il y en a 37, mais elles ne dorment pas toutes dans
la
rue.
Ah non, c'est pas des gens, ils ne sont pas tous dans la rue. Il y en a qui veulent vraiment coucher dans la rue. Mais par exemple, la semaine dernière, j'en ai quand même trouvé 5 qui n'avaient rien pour l'hébergement. Donc ceux qu'on passe voir en ce moment.
Et c'est à ce moment-là, vous les redirigez ?
Eh bien, on essaye de faire le maximum pour faire le 115. Et malheureusement, le 115, il n'y a plus de place. Donc ils ne sont pas pris. Il reste dehors.
Mais vous êtes là pour leur apporter...
Ah oui, oui. Mais on se bagarre quand même pas mal. Je vous dis le mot, parce qu'il faut se bagarrer dans la vie. Pour qu'ils aient quelque chose d'hébergement, d'urgence, on essaie des solutions.
Ce soir, c'est un peu spécial. Vous leur donnez aussi des crêpes.
Alors ce soir, c'est la Chandeleur. J'avais dit, moi, en tant que bénévole, d'autres bénévoles, j'ai dit, on devrait bien faire un petit moment de Chandeleur, des petites crêpes. J'ai trouvé de la folie, des nombres de bénévoles. On a récupéré au moins 70 crêpes. Alors, je sais pas, il y en a qui font au chocolat, au sucre, nature, voilà. Et tout ça. Et ils ont chacun droit à 2 crêpes ce soir au moins. Et j'en ai distribué beaucoup plus, vous avez vu, je pense, plein de crêpes. Donc on en a encore qu'on va distribuer à la fin de la maraude parce qu'on est à mi-maraude là.
Et ça, c'est ce que produisent les bénévoles eux-mêmes. Mais
oui.
Vous, comment vous faites pour récupérer les produits ?
Alors donc, nous sommes adhérents déjà à la Banque Alimentaire. Et donc, on a aussi des partenaires, SOS Bébé, qui nous donnent des viennoiseries, du pain tous les vendredis, en fin de matinée. Après, vous savez, le Columbus le soir à la maraude. Et puis aussi, on a Paul le boulanger qui donne du pain. Voilà. Donc, on a quand même pas mal de choses. Et s'il y a du pain de rab le lendemain, tout ce qui est rab de pain, il est amené à la bonne assiette au restaurant social. Rien n'est perdu. On ne souhaite pas ça. On ne veut pas.
Et depuis 1997, j'imagine que vous avez dû créer du lien avec certaines personnes.
Je pense que oui. Il n'y a qu'à voir. Vous avez bien vu comment on fait avec eux, comment ils me connaissent maintenant depuis le temps. Mais bien sûr, parce que moi j'y suis tous les vendredis soirs. Pour moi, c'est un bonheur d'aller vers eux.
Et est-ce que vous avez pu constater des personnes qui finissaient par s'en sortir et...
C'est arrivé, oui. Ah oui, ça c'est vrai. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Il ne faut pas me dire, c'est pas vrai. Ça c'est sûr que moi je peux le dire. Hein. Il ne faut quand même pas tout dénigrer, tout défaire. Ce sont des gens, ils sont comme ils sont. Ils sont là. Nous, on ne juge pas. C'est pas là, je ne suis pas là pour juger. Mon bonheur, c'est d'aider l'autre. C'est tout, on les aide. Et on a une chance en plus, on a le bonheur, parce qu'on a pas mal de bénévoles, c'est vrai. Et en plus, on a un médecin bénévole qui nous donne un coup de main, s'il y a besoin. On a même un pharmacien, qui est là ce soir d'ailleurs.
Vous continuerez jusqu'à quand?
Ah, hein?
Vous continuerez jusqu'à quand?
Jusqu'au bout de ma, si j'ai la santé, j'irai au bout. Ils m'ont fait quelque chose d'extraordinaire, parce que pas beaucoup l'ont eu. Il y a 4 ans, j'ai fait un accident cardiaque, j'ai eu un quadruple pontage. Eh bien, ils m'ont fait un message sur le téléphone, comme ça, avec de la musique, chanter et tout pour moi. Ils m'ont envoyé une carte. Quand vous êtes à l'hôpital, ça marque dans la vie. Ça m'a marqué énormément. Et c'est des gars que j'adore, parce qu'il y en a certains qui sont décédés, malheureusement. Mais je les considère même pas, c'est même pas comme des enfants, c'est des amis. D'abord, on les appelle, nous, les amis de la rue. On s'appelle plus les SDF, les machins, c'est fini, ça. C'est nos copains, quoi, voilà, comme quelqu'un, voilà, dans la vie.
Ils vous ont rendu l'appareil.
Ah oui, 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 ah, non, mais ça, c'est vrai. Ça, faut... Moi, je suis admiratif de ce qu'ils m'ont fait. Ça m'a fait chialer comme une madeleine quand j'étais à l'hôpital, bien sûr. Voilà. Mais... Les gens ne s'imaginent pas le bonheur que c'est d'être avec eux, de les retrouver. Moi, je retrouve là, le vendredi soir, c'est un bonheur. Même s'il pleut, il fait froid, machin. On a eu du moins 7, moins 8, on était dans la rue, on était avec eux. On était avec Gégé, là, comme tout à l'heure. Là. Lui, il était à les bras nus. Il avait chaud, nous, on se gelait. Mais on était là.
Reportage avec l'association Les Autres. Et cette émission se termine. Philippe, que pouvons-nous vous souhaiter pour cette nouvelle année ?
Tout d'abord, bah, que l'organisation que l'on vous a expliquée fonctionne. Et d'une manière générale, bah, que les conditions pour toutes les personnes en difficulté s'améliorent. Mais je crois que ce n'est pas que de notre fait, malheureusement. Que nous, en fait, nous ne sommes qu'une petite goutte d'eau dans ce vaste monde. Il faudrait plus que le colibri, qu'il y ait beaucoup de colibris pour apporter quelques gouttes d'eau pour éteindre l'incendie de la désespérance.
Mais le colibri fait sa part.
Tout à fait.
C'est la fin de cette émission dédiée à la solidarité. Le groupement des radios associatives remercie le collectif 87 ayant permis l'accueil de la table ronde du Graal. Merci à son président Jean-Paul Suchot, son directeur Lionel Raguet. Merci surtout à votre présence Philippe Rougerie. Et merci à Mamadou et à Taj Zay. À la direction Sébastien Péjou, journaliste pour le Graal. Et à la réalisation Thierry Bolaton d'Emergence FM. On se quitte avec quelqu'un qui a choisi de vivre la nuit. C'est Alain Bachung, on écoute La nuit je mens.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Belière, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions.
subsiste encore ton écho. Oh, subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore.